à Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriac au micro en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du mercredi 11 avril 2018. À la une ce soir, tragédie en Algérie où un avion de l'armée s'est écrasé faisant 257 morts. Nous ferons le point sur la République centrafricaine au lendemain d'affrontements dans le quartier musulman du PK5 de Bangui. Au Togo, l'opposition a maintenu son appel à manifester aujourd'hui alors que le gouvernement avait interdit les marches. Et puis, le président américain Donald Trump a averti la Russie de frappes imminentes contre la Syrie. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Crash en Algérie, un avion de l'armée s'est écrasé peu après son décollage, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. C'est la pire catastrophe aérienne qu'ait connue l'Algérie. Claire Morin-Gibourg.
Les images tournent en boucle sur les télévisions algériennes. Une épaisse fumée noire se dégage de l'épave de l'appareil dans un champ situé à une centaine de mètres seulement de l'enceinte de la base militaire de Boufarik. Située à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger, la zone de l'accident est inhabitée, mais une personne au sol, le gardien du champ, a été blessée par des débris. Aucune hypothèse n'a été encore avancée pour expliquer l'accident. Les victimes sont les 10 membres d'équipage et 247 passagers, dont la plupart sont des personnels de l'armée nationale ainsi que des membres de leur famille, selon le ministère de la Défense. Ce bilan en fait la pire catastrophe aérienne civile ou militaire survenue en Algérie. C'est aussi le quatrième accident d'avion le plus meurtrier au monde ces 20 dernières années.
Cap sur Bangui, la capitale centrafricaine, calme ce mercredi après une nouvelle spirale de violence hier dans le quartier musulman du PK5. Une nouvelle opération de désarmement des bandes armées a fait plus d'une vingtaine de morts, en majorité des civils et de nombreux blessés. Sur place à Bangui, on retrouve Freeman Sipila, le correspondant de VOA Afrique.
Même si un calme apparent a régné toute la journée ce mercredi dans la capitale centrafricaine, la tension y est encore palpable. Tôt dans la matinée, des manifestants quittant le PK5 ont déposé 17 corps de civils devant le quartier général de la MINUSCA. Des personnes tuées hier au cours du raid contre les bandes armées. Des corps enlevés peu de temps après par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui a annoncé par ailleurs avoir ramassé 9 autres corps et déposé à la morgue. De son côté, la MINUSCA, la force de l'ONU, a signalé un mort et 9 blessés, tous membres du contingent rwandais. Ce qui porte à plus de 20 le nombre de casques bleus blessés depuis le lancement des opérations dimanche dernier. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a démenti la présence des militaires centrafricains dans les opérations menées hier par les soldats de la MINUSCA. Cette situation à Bangui a également des répercussions à l'intérieur du pays. Des journées villes mortes ont été observées dans certaines villes contrôlées par les ex-Séléka, précisément en Ndélé, à Kabo, mais aussi des tensions signalées à Bambari, Bria et Kagabandoro. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
L'opposition togolaise n'a pas pu manifester ce mercredi à Lomé, comme dans d'autres villes à l'intérieur du pays. Le gouvernement a interdit les manifestations et positionné des agents de l'ordre très tôt aux différents points de départ. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Étouffé dans l'œuvre, c'est en ces termes qu'on pourrait qualifier la manifestation de l'opposition togolaise de ce mercredi à Lomé. À peine les premiers manifestants ont tenté de se rassembler et demandé aux automobilistes de prendre des déviations que les forces de l'ordre ont pris position. S'en est suivi des jets de gaz lacrymogènes et des courses-poursuites. Les manifestations étant interdites par le gouvernement, les forces de l'ordre déployées dans les coins stratégiques de la ville ont dispersé sans ménagement tout attroupement aux grandes dames des manifestants.
On veut démission, transition, élection au Togo. Parce qu'on est fatigué de tout.
Le régime s'est vraiment enraciné tellement qu'il n'y a pas de solution. Il faut un rapport de force. Je le répète encore, rapport de force.
Nous, nous sommes très décidés. Il peut faire tout. Il va partir. Fort, il doit partir.
Des manifestations sont encore prévues jeudi et samedi. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'opposition dit non à la machine à voter et exige l'audit du fichier électoral. Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire sur place.
Dans une déclaration commune lue au siège du Mouvement de Libération du Congo à Kinshasa, l'UDPS, le MLC, l'UNC, Ensemble de Moïse Katumbi et Congo Nabisso de Freddy Matungulu contestent les chiffres publiés par la Commission électorale nationale indépendante le vendredi dernier sur le nettoyage du fichier électoral et exigent en même temps des mesures correctives pour garantir, selon eux, la crédibilité des résultats des prochaines élections. Félix Tshisekedi de l'UDPS, Eve Bazaïba du MLC, Jean-Baudouin Maillot de l'UNC et Pierre Lumbi, l'ensemble de Moïse Katumbi, expriment également leur rejet de la machine à voter au prochain scrutin pour notamment son caractère inconstitutionnel. Faisant allusion à la dernière déclaration de la Commission électorale sud-coréenne, ils évoquent, je cite, « le risque d'une fraude à grande échelle en cas d'utilisation de la machine à voter proposée par la CENI ». Fin de citation. Ces leaders de l'opposition invitent par ailleurs le peuple à rester vigilant, à ne pas céder à la manipulation et à s'apprêter à exercer sans retenue son droit constitutionnel de changer démocratiquement le leadership de la République démocratique du Congo. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, un nouveau procès du chef de guerre surnommé marocain s'ouvre vendredi dans l'est du pays. C'est ce qu'indique l'AFP citant l'ONG Trial International qui soutient 100 victimes des exactions présumées de ce chef de guerre. Il est entre autres poursuivi pour crimes contre l'humanité par viol, emprisonnement et pour crimes de guerre par esclavage sexuel. Il est également poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel selon cette ONG. Niger, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'opposant à Mahamadou. Condamné à un an de prison pour un trafic international de bébés, cet ancien président du Parlement, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, vit à l'étranger. Il doit donc rentrer au Niger afin de purger sa peine, a confié une source judiciaire à l'AFP. Mali, l'ONU va entreprendre dans les prochaines semaines une identification des Maliens qui font obstruction à la paix. L'objectif est de leur imposer des sanctions, ont annoncé la France et les États-Unis. Burundi, les 21 personnes arrêtées lundi à Bujumbura pour atteinte à la sécurité du pays ont été libérées, c'est ce que rapporte l'AFP. La police burundaise avait annoncé que parmi les personnes arrêtées, il y avait un officier de l'armée, deux officiers de police, un retraité de l'armée et des civils qui cherchaient, selon eux, à perturber la sécurité. Mais leurs proches affirmaient que ces personnes faisaient simplement partie d'un club de tennis de table. Des opposants accusent les autorités burundaises de paranoïa. Éthiopie, le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à Ambo, région Romo, où un des foyers des manifestations anti-gouvernementales ayant mené à la chute de son prédécesseur. Issu de l'ethnie Oromo, la plus importante du pays, il a demandé aux protestataires de lui laisser le temps de mettre en place les changements promis. Coup d'envoi de l'exercice Flintlock 2018. Quelques 1500 militaires africains, américains et européens ont entamé des manœuvres dans l'ouest et le nord du Niger pour s'exercer face aux menaces terroristes qui planent sur ces régions. L'opération a aussi démarré au Burkina Faso. On aura des détails en seconde partie d'émission. Première visite officielle du nouveau président sierra-léonais Julius Madabio. Il s'est rendu au Sénégal où il a été reçu par le président Macky Sall. Les discussions ont porté sur l'économie, la gouvernance et sur comment le Sénégal peut aider la Sierra Leone à aller de l'avant, d'après Monsieur Bio. Mozambique, les prochaines élections présidentielles, législatives et provinciales auront lieu le 15 octobre 2019. C'est ce qu'a annoncé le président Felipe Nyusi dans un communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Occidentaux ont maintenu, en dépit du veto russe à l'ONU, leur détermination à riposter fermement à l'attaque chimique présumée imputée au régime de Bachar al-Assad et font planer la menace de frappe militaire en Syrie. John Lindon.
La confrontation entre les États-Unis et la Russie sur le dossier syrien s'est durcie. Moscou, soutien indéfectible de Damas, a opposé hier son veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution américain visant à créer un mécanisme d'enquête indépendant sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Mais en face, les Occidentaux, États-Unis et France en tête, ont redoublé de détermination après avoir fait clairement planer la menace de représailles militaires. La France mettra tout en œuvre contre l'impunité chimique, a assuré l'ambassadeur français François Delattre. Elle annoncera dans les prochains jours la décision sur sa riposte, a précisé à Paris le président Emmanuel Macron. S'inscrivant dans cette fièvre diplomatique, le président Donald Trump et la première ministre britannique Theresa May sont aussi tombés d'accord lors d'une conversation téléphonique pour ne pas laisser l'usage d'armes chimiques se poursuivre, a rapporté la Maison-Blanche. Washington entend même pousser le bouchon plus loin. Donald Trump a averti aujourd'hui la Russie, alliée de Bachar al-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie. Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays a promis d'abattre tout missile lancé contre la Syrie, dit néanmoins espérer que le bon sens finira par l'emporter dans les relations internationales, actuellement de plus en plus chaotiques.
Ici aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a annoncé qu'il ne se représentera pas aux élections parlementaires de novembre et prendra sa retraite politique en janvier lorsque son mandat arrivera à échéance. Arabie Saoudite, la force de défense antiaérienne, a intercepté un missile, dans le ciel de la capitale, Riyad, d'après la chaîne de télévision à capitaux saoudien Al Arabiya. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur La Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La Tunisie veut récupérer plus de 2 milliards de dollars de créances douteuses. La société tunisienne de banque, la Banque nationale agricole et la Banque de l'Habitat devraient faire l'objet de ce plan de récupération des créances. Le gouvernement envisage également la mise en place d'un comité de suivi des travaux en collaboration avec le Parlement pour créer un cadre législatif propice à cette opération. L'Afrique du Sud pourrait réduire de moitié son taux de pauvreté d'ici à 2030. Pour y arriver, la Banque mondiale encourage Pretoria à continuer les réformes politiques, économiques et sociales en vue d'encourager les investissements. Le développement des politiques de lutte contre la corruption, de gratuité de l'enseignement supérieur et de réforme de la gestion de l'industrie minière devrait permettre au pays de réussir le pari de la réduction de la pauvreté. D'après l'institution de Bretton Woods, la corruption, les inégalités et la criminalité constituent les principaux facteurs de pauvreté en Afrique du Sud. D'après les chiffres de Washington, la Chine détient presque 1170 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Ce montant représente 20% du total de la dette des États-Unis aux mains d'institutions étrangères. Il constitue en apparence un levier redoutable pour d'éventuelles représailles chinoises en cas de conflit commercial.
Plein feu sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgan.
Suite et fin des quarts de finale, retour de la Ligue des Champions aujourd'hui.
Sur le papier, le Real Madrid n'a plus qu'une formalité à remplir face à la Juventus, battue à l'aller 3-0 à Turin. Mais attention, la fameuse remontada de l'AS Rome face au FC Barcelone hier suscite de la prudence. Les doubles champions d'Europe en titre seront privés de leur patron en défense, Sergio Ramos suspendu, mais peuvent toujours compter sur Cristiano Ronaldo, auteur à l'aller. On se rappelle encore d'une bicyclette qui a fait le tour de la planète. Dans l'autre rencontre de ce soir, le Bayern reçoit le FC Séville après sa victoire 2-1 chez les Andalous. Coup d'envoi de ces deux rencontres, 18h45, temps universel.
Et Ligue des Champions toujours, Mohamed Salah a égalé le record d'Eto'o.
Tout à fait Morgan, en inscrivant un but lors du succès 3-0 face à Manchester City, l'attaquant égyptien a porté son total de buts sur une saison de Ligue des Champions à 8 réalisations. Il a ainsi égalé le Camerounais Samuel Eto'o qui a inscrit 8 buts lors de la saison 2010-2011. Salah et Eto'o sont talonnés par le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, 7 réalisations chacun.
En Afrique, les affiches du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2018 sont connues.
Achevé hier, le premier tour des éliminatoires a permis à 9 sélections de valider leur billet pour le second et dernier tour des qualifications qui aura lieu du 4 au 9 juin, exempté du premier tour. Le Nigeria, 8 fois champion d'Afrique, le Cameroun et l'Afrique du Sud vont tous entrer en jeu, tout comme le Mali. Les affiches Côte d'Ivoire, Mali et Congo-Cameroun vaudront bien le détour, de même que le derby Zambie-Zimbabwe. La Gambie fait face au Nigeria, à suivre aussi Algérie, Éthiopie et les autos Afrique du Sud.
Des athlètes camerounais ont disparu aux Jeux du Commonwealth.
Oui Morgan, 8 athlètes participants aux Jeux ont disparu et auraient pris la fuite d'après Simone Molombe, attaché de presse de la délégation camerounaise. Parmi eux, 3 haltérophiles, Olivier Matam Matam, Arcangeline Fuji et Petit Mikambu, ainsi que les boxeurs Christian Zitsoy et Simplice Fotsala.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriac en votre compagnie, place au dossier du jour. Le Tchad n'est plus sur la liste noire qui interdisait depuis plusieurs mois l'entrée de ses ressortissants sur le territoire américain. C'est ce qu'a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué. Washington estime que le Tchad a mis à niveau ses normes de sécurité correspondant aux exigences de base de la sécurité nationale américaine. L'interdiction sera formellement levée à partir du 13 avril. Et Kabadou a joint N'Djamena, le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Zene Chérif.
Tout d'abord, nous tenons à saluer la levée de cette mesure que nous avions qualifiée dès le départ d'injuste. Et effectivement, nous sommes d'accord que la mesure ne visait pas le Tchad et les Tchadiens, mais telle qu'expliquée par nos amis américains, elle visait plutôt l'environnement sécuritaire dans lequel le Tchad se trouve et la sécurisation des documents de voyage du Tchad. Quelles qu'en soient les conditions, ce qui est important, c'est que cette mesure qui ne se justifiait pas à notre point de vue a été levée. Et c'est déjà une bonne chose. Nous avions déjà eu des indications lors de la visite du secrétaire d'État sortant, M. Tillerson, que la mesure allait être levée début avril.
Vous parlez d'indications. Et quelles étaient ces indications? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la levée est effective?
Il faut reconnaître qu'avant la levée de cette mesure, il y a eu un travail qui a été fait en amont. Effectivement, les services compétents de deux pays ont eu à travailler ensemble pour que la partie américaine puisse obtenir les informations dont elle avait besoin. Je pense que quand le secrétaire d'État sortant a effectué sa visite ici à N'Djamena, les choses étaient suffisamment avancées. La partie américaine était en train déjà de rédiger un rapport soumis début avril. Il y a une forte probabilité que le Tchad soit retiré de la liste. Ce qui fut fait, nous nous en félicitons.
Alors vous en félicitez, les Tchadiens aussi avaient beaucoup parlé d'injustice. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait si finalement énormément de Tchadiens se dirigent vers les États-Unis, voyagent vers les États-Unis?
Les Tchadiens ne faisaient pas partie de ceux qui se dirigeaient en masse vers les États-Unis. Par an, ça ne dépassait pas les 100 ou 200 visas. Donc peut-être le fait que pendant quelques mois, on a privé les Tchadiens de la possibilité de se rendre aux États-Unis ferait que peut-être dans l'immédiat, il y aura un afflux de demandes de visa. C'est fort possible.
Le rapport de force que fait parfois les États-Unis, quel est le regard que vous pouvez en avoir à distance? Parce que vous avez quand même parlé du mot injustice, mais en même temps, vous avez parlé des États-Unis qui est un pays ami.
Justement, en ce moment, mon optimisme a été qualifié peut-être de prématuré, mais nous avions certainement confiance. Nous reconnaissons de façon tout à fait lucide l'importance des États-Unis en tant que partenaire, non seulement pour le Tchad, mais pour tout le continent africain. Et je pense que de notre côté, nous allons mettre tout en œuvre pour que la coopération et le partenariat stratégique que nous avions puissent se renforcer encore davantage.
Le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Zene Chérif.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Retour sur l'accident d'un avion militaire algérien qui s'est écrasé aujourd'hui, ce matin, près d'Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. L'appareil, un Ilyushin 76, venait de décoller de la base aérienne de Boufarik, à environ 25 km au sud-ouest d'Alger. Pour en parler, John Hindon a joint à Alger Mustapha Ait Mouhoub, journaliste et rédacteur en chef de l'APS.
Les Algériens, ils ont appris avec beaucoup de consternation, avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de chagrin, cette triste nouvelle. Il s'agit réellement d'une hécatombe. Environ 257 selon le premier décompte de communiqué du ministère de l'Éducation nationale. 257 morts, dont une bonne partie sont des soldats de l'ANP, ou de leurs proches, ou de leurs familles. Donc, c'est avec beaucoup de tristesse, d'affliction qu'ils ont appris ça. Et jusqu'à maintenant, les Algériens, ils sont sous le choc. C'est une perte terrible, c'est une hécatombe. De par le nombre déjà des morts enregistrées lors de cet accident.
Une commission d'enquête a été immédiatement mise sur place pour rechercher les causes de cet accident. Est-ce qu'on a quelques premiers éléments?
Non, jusqu'à maintenant, on n'a pas d'éléments sur cette enquête. Elle vient d'être instituée par des autorités compétentes. Il s'agit de chercher maintenant les causes de cette crash. Tous les éléments qu'on a, c'est que lors du décollage de l'avion, juste quelques minutes après, l'avion s'est précipité et s'est affaissé carrément sur, à côté de la base militaire. Donc, il s'agit de prime abord d'un accident, d'un crash. Maintenant, des raisons, jusqu'à maintenant, on n'a aucun élément. Et il peut s'agir d'une faute humaine, d'une erreur de pilotage, par exemple, comme il peut s'agir d'autres choses. Mais pour l'instant, selon le témoignage oculaire, l'avion a décroché, c'est-à-dire il n'a explosé qu'en arrivant à terre, c'est-à-dire quand il s'est complètement affaissé, il a explosé, donc il s'agit bien d'un crash.
Est-ce qu'on sait qui étaient les occupants de l'avion?
Il s'agit d'un avion militaire, en bonne partie des militaires algériens, des jeunes soldats algériens qui se rendraient à leur caserne à Béchar et à Tindouf, et de leurs proches, de membres de leur famille.
Moustapha Eït Mouhoub, journaliste et rédacteur en chef à l'APS.
Et Kia Badou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive à votre avis. 8 participants camerounais aux Jeux de Commonwealth en Australie ont disparu. Ils sont suspectés de ne pas vouloir rentrer dans leur pays à la fin des Jeux. Que pensez-vous des athlètes, des intellectuels et autres qui profitent des manifestations sportives ou de conférences à l'étranger pour prendre la fuite et ne plus rentrer dans leur pays d'origine au moment de l'expiration de leur visa? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur notre page www.voafrique.com. À tout à l'heure.
La société civile gabonaise dénonce les arrestations arbitraires et la disparition forcée d'au moins 3 personnes, dont l'ex-animateur vedette Stampy Love. Il leur serait reproché d'être des proches de Jean Ping, kidnappé par des hommes cagoulés en 2005 et incarcéré en 2015. Le champion de taekwondo Christian Kombengano revient sur ses disparitions forcées au micro de Nathalie Barge.
Nous avons Alain Bella Obian, porté disparu depuis le 18 décembre 2017. Jocelyn Timoro Obam, très connu sous le nom de Stampy Love Obam, porté disparu depuis le 19 décembre 2017. Et après, nous avons Armel Mouendou, alias Grand Galet, porté disparu depuis le 3 janvier 2018.
Des personnes aux environs de Mélène, c'est un quartier à Libreville, ont témoigné qu'ils ont vu une fourgonnette pick-up blanche avec des personnes cagoulées qui ont pris Monsieur Jocelyn Obam. Donc, c'est un pillover.
D'ailleurs, il vous est arrivé quelque chose de similaire, si on peut dire, vous, en 2005?
Tout à fait. En 2005, en sortant d'une conférence de presse où il y avait deux présidents de partis d'opposition gabonaise, le mythique Mambundu, Pierre, président de l'UPG, et il y avait Monsieur Miboto qui avait organisé une conférence de presse. Et moi, à l'époque, j'étais président de l'UPG au premier arrondissement et j'étais responsable de la sécurité du président Mambundu dans le mouvement des jeunes. En sortant de cette conférence de presse, j'ai décidé de pas partir avec le président ce jour. Comme il y avait tellement de foule, il fallait un peu coordonner la foule. Et après 15 minutes de marche, deux pick-up sont arrivés vers moi et des officiers de la police gabonaise sont descendus, cagoulés, avec des armes et me dire cette phrase « Danger, tu as choisi ton camp, monte ici ».
Et vous êtes retrouvé 6 jours dans un lieu inconnu, c'est ça ?
Je me suis retrouvé 6 jours dans des lieux inconnus. Je n'étais pas seul, hein, parce que juste après qu'ils avaient fait la rafle avec moi, ils ont pris un autre Gabonais qui s'appelle Alain Renami, qui est décédé, qu'on avait retrouvé après mort dans un hôtel. Il avait été aussi raflé ce jour-là et on nous a transportés au commissariat central de Libreville. Et là-bas, il y a le préfet de police qui est descendu avec une note. Il est venu avec un texte en disant qu'il fallait que je signe, dire que je venais de faire des destructions de biens publics.
Les législatives, elles ont été reportées plusieurs fois au Gabon, non ?
Oui, nous sommes déjà, nous allons à la troisième fois bientôt là. Donc ça montre déjà qu'il y a un problème au Gabon sur le plan de la Cour constitutionnelle. La présidente actuelle, Madame Bourenço, qui est là depuis les années 93, je pense que c'est déjà très longtemps, mais comme étant la belle-mère du président de la République, elle est presque inamovible. Mais elle-même aussi, nous voyons aujourd'hui qu'elle n'a même plus de pouvoir devant l'exécutif. L'exécutif fait ce qu'il veut, donc on rapporte les élections.
Est-ce que selon vous, elles vont vraiment avoir lieu au mois de mai?
Pour aller à ces élections, je pense que ce sera quand même difficile parce qu'il y a beaucoup de tâches par rapport aux dernières élections présidentielles. Jusqu'aujourd'hui, le Parlement n'a même pas encore ouvert une enquête parlementaire. Aujourd'hui, il y a des Gabonais, des familles gabonaises qui cherchent leurs enfants toujours. Nous avons les morgues aujourd'hui très remplies de corps. Nous avons encore des détenus en prison. Et est-ce que les conditions sont prêtes après cette défaillance flagrante qu'il y a eu aux dernières élections où, mathématiquement parlant, c'était pas possible de sortir avec un tel score?
Christian Kombeng-Nando, vice-champion des États-Unis de taekwondo, triple champion du Gabon. Il est membre de la diaspora gabonaise dans la région de Washington. Interview intégrale sur VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Syrie, théâtre samedi dernier d'une nouvelle attaque chimique présumée, encore une fois imputée au régime de Bachar al-Assad. Les condamnations internationales ont été immédiates, mais vont-elles aboutir à une riposte militaire? Le président américain Donald Trump frappera-t-il Damas comme il l'a fait l'an dernier? Comment réagira la Russie de Vladimir Poutine, l'allié indéfectible du gouvernement syrien? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
L'exercice militaire dénommé Flintlock, organisé depuis 2005 par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, a été lancé ce mercredi matin au Niger et à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'exercice permettra de soutenir l'armée burkinabée et faire face au terrorisme. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Des forces spéciales américaines, en compagnie des forces spéciales européennes et africaines, réunies à Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour l'exercice militaire du commandement américain Flintlock 2018. Le colonel Rémi Kabore, chef de la division opération adjoint de l'état-major des armées du Burkina Faso, explique pourquoi cet exercice militaire.
L'exercice Flintlock est un exercice militaire multilatéral, planifié, coordonné et exécuté par les forces spéciales africaines, américaines et leurs partenaires européens. Cet exercice-là vise en fait à encourager les pays à coopérer au niveau de la région, à stabiliser la région transsaharienne en réduisant au maximum les capacités de nuisance des groupes d'extrémisme violent.
Pour cette édition de Flintlock, plus de 1500 soldats, des forces spéciales essentiellement de plus de 20 pays africains participent. Ces soldats maliens qui parlent sous anonymat est au Burkina Faso et espère acquérir le maximum dans cet exercice militaire.
Nous avons quitté le Mali, venir au Burkina Faso pour des entraînements. Nous sommes venus en compagnie de soldats américains et des soldats de bien d'autres pays. Et dans cet entraînement, il n'y a que nous arrivons à nous connaître les uns les autres. Et ce que nous connaissons déjà dans notre travail, on peut apprendre plus. Si nos autorités ont eu l'idée de nous mettre ensemble pour ce genre d'entraînement, c'est parce qu'elles ont confiance. Et pour cela, nous allons nous y mettre et ce qu'on va apprendre ici, on va l'utiliser justement pour combattre les terroristes.
En clair donc, la formation permettra de lutter contre le terrorisme. Le chef de la division opération adjoint de l'état-major des armées du Burkina Faso.
Mais de façon concrète, cet exercice va permettre d'acquérir pour nous une sérieuse formation et bien sûr un savoir-faire niveau tactique qui pourront être employés dans l'immédiat, dans la défense des populations civiles au niveau de notre pays et bien sûr de tous les pays participants à cet exercice.
Flintlock, cet exercice militaire multilatéral, est annuel. En plus du Burkina Faso, il est organisé simultanément au Niger et au Sénégal. Il va durer 2 semaines. C'est le plus grand exercice militaire multinational d'opérations spéciales et d'entraînement entre les nations africaines et leurs partenaires occidentaux. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot, Dan Trafton à la technique, Morgane Guiriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui.
Voix Afrique. Les